Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Théma, votre magazine culturel de 48FM, avec aujourd'hui comme thème du jour le festival Contes et Rencontres. Il démarre ce samedi pour sa 34e édition, autant d'éditions qu'il y aura d'événements programmés sur tout le département jusqu'au 22 février prochain. Un festival donc qui est devenu l'une des pierres angulaires de la saison culturelle lausérienne et qui a également su se faire un nom sur la scène nationale pour les conteuses et conteurs. L'émission sera également l'occasion d'aborder toutes les facettes de cet art du récit, sans cesse réinventé. Et puis naturellement, nous parlerons en profondeur de la programmation de cette édition dans une seconde partie, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Et autour de cette table, avec moi, je reçois deux invités. Tout d'abord, Élise Boudry. Bonjour Élise.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de la Fédération départementale des foyers ruraux et coprogrammatrice du festival Contes et Rencontres. Et également présent dans le studio, l'un des trois coprésidents de la Fédération départementale des foyers ruraux, organisatrice du festival. Bonjour Jocelyn Boulot.
Bonjour.
Et puis même s'ils ne sont pas autour de cette table, vous entendrez à plusieurs reprises les voix des conteurs Kamel Guénoun, Daniel Lomont et Florent Mercadier, interviewés en amont de cette émission et dont certains extraits seront diffusés lors de cette émission. Mais tout d'abord, je reviens vers vous, Jocelyn et Élise, avec une question. Avant même parler du festival, qu'est-ce que le conte signifie pour vous ? Qui veut commencer ?
Alors, c'est une question que notre commission compte se pose régulièrement, voire tous les ans. parce que, en fait, la programmation est faite avec un groupe de bénévoles, avec l'ancienne aussi salariée Marie Huguet et les salariés de la fédération. Et c'est vrai que c'est toujours une question qu'on se pose, puisqu'on a le conte traditionnel, mais on essaie aussi de ne pas s'attacher seulement à cette forme-là et d'élargir à des arts du récit un peu plus modernes. Alors, j'ai amené avec moi un livre que j'ai trouvé au Festival de Bordeaux l'été dernier, un festival de contes assez connu où on va pour prospecter pour notre programmation, qui s'appelle « Et à la fin, il meurt ». La sale vérité sur les contes de fées, qui est un livre un petit peu humoristique, qui nous parle du fait que le conte, en fait, à l'encontre des a priori que beaucoup de gens ont, ne se cantonne pas aux enfants. On voit en fait que quand on voit les versions de Grimm ou même de Perrault après, c'était parfois très violent, c'était pas juste pour les enfants, c'était aussi pour les adultes.
Ça, les gens les connaissent, mais peut-être un exemple comme ça, effectivement, un conte où on le lit depuis des générations, mais en fait, si on pense vraiment à l'histoire, c'est assez violent. Je sais pas si tu as un exemple.
Oh, bah la plupart, La Belle au Bois dormant, quand on lit la version de Perrault, ça se termine pas avec ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En fait, la belle-mère prévoyait de brûler La Belle au Bois dormant dans un bouillon, et finalement, c'est elle qui pousse la belle-mère dans le bouillon. Il y a énormément de contes comme ça où finalement c'était assez violent finalement.
Et vous, Jocelyn, pour une... Alors, je pense qu'il y a autant de définitions du conte qu'il y a de personnes sur Terre, mais la vôtre ?
Pour moi, le conte, c'est avant tout de la transmission. C'est la transmission de la vie tout court, tout simplement, parce qu'en fait, à travers les contes, on fait passer beaucoup de témoignages, beaucoup de vécu de la part de gens qui ont pu s'exprimer et qui ont pu rencontrer les conteurs. Voilà. Ça peut paraître un mot un peu ancien, le conte, puisqu'effectivement, il y a les anciens contes, mais les contes anciens sont aujourd'hui revisités par les conteurs contemporains. J'aime bien le mot aussi, parce qu'on peut faire le jeu de mots, conte et contemporain. Mmh. C'est tout à fait d'actualité, le conte.
Oui, et j'aimerais ajouter aussi que finalement, les contes, s'ils sont arrivés jusqu'à nous à travers les siècles, c'est aussi parce qu'ils avaient un symbolisme fort. On pense notamment à Bruno Bettelheim, qui est un psychanalyste qui a énormément étudié la question. Alors après, on est d'accord ou pas avec ses interprétations des contes, mais quoi qu'il en soit, ça touche l'inconscient. Et on remarque que même à travers différentes cultures, sur différents continents, il y a des contes similaires qui se retrouvent parce que ça contenait des sortes de leçons de vie.
Et, oui, avec et, toujours la fameuse morale qu'il peut avoir à la fin d'un compte, par exemple.
Et pas toujours, mais effectivement, ça, souvent dans les comptes traditionnels, il y avait une sorte de leçon. Et du coup, dans le livre, ils disent eux-mêmes que c'est difficile de définir un compte, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais on peut dire que la plupart des comptes regroupent les caractéristiques suivantes. C'est issu de la mémoire collective et de la tradition orale. C'est des aventures imaginaires qui peuvent être parfois invraisemblables ou merveilleuses, comme la marraine, la fée, des fois il y a de la magie. C'est souvent une forme courte, c'est pas des longs récits. C'est des histoires à part entière, souvent ils sont pas liés entre eux. Ça ne comporte pas toujours de morale explicite, justement. Ça dépend des versions Grimm ou Perrault. Perrault a plus voulu éduquer les enfants et donc a inclus des morales à partir de son époque, mais avant, ce n'était pas forcément le cas. Ça contient aussi des personnages symboliques ou caricaturaux. Et ça a une structure narrative assez simple et peu détaillée au départ. Voilà.
Bah, merci pour toutes ces précisions, mais en plus, ça me fait un super lien avec la suite et le premier extrait que je vais vouloir vous faire écouter, parce que bon, on l'a dit, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais justement évacuer ce que peut-être certaines auditrices, auditeurs pourraient penser, voilà, que le conte en 2025, ce n'est pas seulement le conte des frères Grimm ou Charles Perrault cantonné à un jeune public. Et voilà, justement, on écoute d'ailleurs Florent Mercadier qui sera programmé dans les prochains jours pour ce festival Contes et Rencontres pour cette 34e édition, qui répond à cette question.
Moi, j'ai découvert en arrivant en ville que le conte, c'était pour les enfants. J'explique souvent, j'ai connu, moi, j'ai été marqué, mais alors enivré, admiratif de ça. J'ai adoré les veillées, ce qu'on appelait chez nous les veillées, c'est pas au coin du feu. Chez nous, la Veliados, c'est les soirées de fin de travaux agricoles, typiquement, avec des tables en mode banquet où il y a 80 personnes, en fait. Chez nous, la Veliados, c'est ça. Et j'ai adoré ça. Et là, dans ces Veliados, il y avait de la musique, un coup il y avait un sketch, un coup il y avait un jeu avec des quilles en bois, un coup on dansait, un coup il y avait un conte, un coup il y avait un vieux monsieur qui racontait une devinette, il y avait beaucoup de débignolos, comme on dit en occitan. Et j'ai adoré cette espèce de cabaret, finalement, improvisé, que donnaient ces soirées. Et mes spectacles, c'est ça. Je ne sais pas faire du conte sans ça. C'est-à-dire que moi, le conte que j'ai connu et que j'ai aimé, c'était celui-là. C'était ce conte où tout se mélangeait et où la frontière entre le conte, le récit, l'humour, tout ça n'était pas très très nette. Et après tout, ce n'est pas la question. L'important, c'était la convivialité. Quand vous avez un public avec des enfants, et bien vous adaptez l'histoire pour qu'elle plaise aux enfants. Et quand vous avez un public d'adultes, vous pouvez prendre exactement la même histoire et y mettre une connotation beaucoup plus second degré, avec des références à l'actualité, avec de l'humour, etc. Et c'est ça qui est bien avec le conte, c'est qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est celle de votre imaginaire et du public. Est-ce qu'il vous suit ou pas?
Voilà, donc il résume un peu pas mal de choses qu'on s'est dit, mais une réaction sur ce que dit Florent Mercadier. D'accord, pas d'accord, je vous voyais hocher la tête quand même à beaucoup de reprises.
Oui, oui, il a très bien exprimé son ressenti sur le conte. Et c'est vrai qu'on est en zone rurale, en Lozère, et ce qu'il a dit est particulièrement vrai chez nous. Hein, on a une tradition de l'oralité ici en Lozère, dans tous nos villages. On se parle encore de vive voix et non pas par téléphone. Et donc, on se retrouve dans ce festival. Les gens se retrouvent ici en Lozère dans ce festival.
Et ça fait effectivement le lien avec les origines du festival, puisque ça a été créé en cœur de l'hiver pour faire écho à ces veillées au coin du feu traditionnelles qu'on avait dans nos campagnes. Et donc cette idée de la convivialité est aussi très importante et on la maintient aujourd'hui, puisqu'on a toujours des temps conviviaux de rencontre entre le public et le conteur. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup et on accompagne nos conteurs sur tout leur trajet, etc. Donc la convivialité est vraiment au cœur du festival.
Oui, c'est ça, c'est que le festival s'appelle Contes et Rencontres, parce que pour vous, ces deux mots et ces deux actions, on va dire, sont aussi importantes l'une que l'autre. Il n'y a pas de rencontre sans conte, et vice-versa, à l'inverse.
Tout à fait.
Complètement. Et Florent l'a dit aussi tout à l'heure, il a prononcé le mot convivialité. Convivialité, c'est un mot qui est très fort aussi, et qu'on retrouve dans tous nos spectacles, que ce soit au début, pendant ou à la fin.
Et donc, pour rappeler un peu, on va parler un peu du concept de ce festival. En quelques mots, justement, c'est pas un festival qui est attrait à un seul lieu. On va expliquer un peu, il y a plus de 30 ans, comment ce festival est né, avec cette idée de faire vivre la ruralité en Lozère, notamment l'hiver. Mais voilà, ce festival, en tout cas, la 34e édition, comment il se déroule dans les grandes lignes ?
Alors, on prospecte même déjà un an avant. On va, comme je disais, sur certains festivals reconnus du conte, comme les Nouvelles du Conte de Bordeaux ou les Paroles de Conteurs à Vassivière. On va aussi dans des festivals qui ne sont pas spécialisés conte, mais par exemple le Festival d'Avignon, et avec des bénévoles de notre commission conte. Donc, c'est comme ça un peu qu'on découvre des artistes. Et après, il y en a qui sont très aimés, qu'on fait revenir régulièrement. Florent Mercadier en fait partie. Il était déjà venu des précédentes éditions. Olivier Drobert aussi. C'est des artistes qui sont souvent très appréciés des Lozériens et redemandés régulièrement.
Et c'est un festival surtout qui se déroule en itinérant. Ça veut dire que là, on le voit aussi sur votre site, mais sur votre petit prospectus, à la fin, il y a une carte. On voit vraiment que ça se déploie sur toute la Lozère. Ça, c'est important pour vous, Jocelyn, le côté itinérance de ce festival ?
Oui, complètement, parce qu'en fait, ça nous permet de porter la culture au plus profond du territoire de la Lozère, avec des bénévoles dans les foyers ruraux qui n'attendent que ça, qu'on vienne avec eux les aider, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, pour certains, d'organiser un spectacle, un spectacle de conte ou même une action culturelle. Et grâce à ce festival qui nous fédère tous, et avec nos partenaires qui sont là aussi, on arrive donc à porter la culture vers des gens qui forcément n'iraient pas forcément voir un spectacle. Et des fois, pour certains, ça peut être le spectacle de l'année dans son village. On n'a pas forcément envie d'aller à Mende ou à Florac ou à Langogne voir un spectacle. Il est devant chez soi, on y va.
Mais ça, c'est ce qu'on me disait, je sais plus d'ailleurs, dans les trois conteurs que j'ai interviewé la semaine dernière, qui me le disait, je ne l'ai pas gardé en extrait, mais quelqu'un, en tout cas l'un des trois, me disait... ce qui est bien avec le conte, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une scène avec des projecteurs, etc. On peut vraiment... il nous faut une salle, quelques chaises peut-être, et le conteur peut se mettre à compter, donc on peut aller partout, quoi. C'est aussi ça l'avantage.
Oui, ça c'est un des critères, entre guillemets, de notre programmation. Alors des fois on fait des exceptions, bien sûr, mais c'est vrai que les puristes du conte vous diront le conte se suffit à lui-même, il n'y a pas forcément besoin de fioritures, de décors, de grosses mises en scène. Et c'est vrai que c'est vraiment la parole du conteur qui porte l'histoire en elle-même, et on essaie toujours de rester autour de ça. Même quand on inclut des formes d'art du récit plus modernes, on garde des seuls en scène. On essaie de ne pas tomber dans le théâtre.
Ça, on y reviendra un moment, justement. Florent Mercadier a interrogé plus tard dans l'émission, deuxième partie, sur cette connivence, en tout cas la différence entre théâtre et conte. Il en parle bien. On l'a dit, donc vous vous déplacez partout en Lozère, des Cévennes à l'Aubrac, en passant par les Gorges. C'est quel type de public qui vient à ces spectacles ?
Alors, c'est un public très varié. Très varié. Le festival, donc on est à sa 34e édition. Donc on a des gens qui suivent le festival depuis son origine et même pour certains avant. L'an passé, on a eu plus de 3000 spectateurs et on avait seulement 25 représentations. Cette année, on en aura 34. Donc on aura sûrement beaucoup plus de monde. Mmh. Et d'ailleurs, l'an passé, on incitait vraiment les gens à réserver parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens se sont retrouvés un peu déçus parce que c'était déjà complet. Mmh. Voilà. On incite les gens vraiment à réserver les spectacles.
On y reviendra à la fin, effectivement, de rappeler ça, mais ça paraît fou quand même des fois de se dire que dans des petits hameaux ou en tout cas des villages de largement moins de 1000 habitants, on y va et on se retrouve bloqué parce qu'il n'y a plus de place. Il y a tellement de personnes qu'on a... peut plus rentrer. Ça, ça prouve un succès, en tout cas un travail qui marche bien.
Oui, si on en est à la 34e édition, c'est aussi qu'on a un public qui est fidèle. Certains qui viennent d'autres départements uniquement pour le festival. Dans le milieu du conte, c'est un festival qui est connu. Et donc, c'est la chance qu'on a. Et aussi, dans notre département, on a quand même la chance, pour un département aussi rural, d'avoir beaucoup d'événements culturels. Mais c'est vrai que sur la période d'hiver, c'est un des événements phares, puisque beaucoup sont regroupés en termes de festival dans l'été. Donc c'est aussi la chance qu'on a quelque part, c'est que on a à cette période-là, on est un des seuls festivals, enfin le seul festival à proposer cette offre culturelle.
Oui, je rajouterais aussi, je disais qu'il y avait des gens qui suivaient le festival depuis son origine, mais on a aussi beaucoup de renouvellement et c'est pas forcément un hasard en ce sens que notre festival, on le programme aussi maintenant depuis plusieurs années à cheval sur les vacances de février. ce qui permet aux familles avec des enfants de pouvoir venir voir des spectacles le soir en semaine. Il n'y a pas l'école le lendemain. Et donc, on a un rajeunissement très net de notre public dans le festival. Et ça fait vraiment plaisir, parce que finalement, là aussi, on crée de l'intergénérationnel.
On a compris donc l'intérêt de cette date-là clé qui permet de faire vivre la Lozère aussi en décembre et pendant les vacances de février. On va revenir sur le festival, mais avant, je voudrais parler de qui organise donc cette fédération départementale des foyers ruraux. On a l'impression, en tout cas, même moi qui viens pas de la Lozère et qui l'a que depuis quelques mois, que en tout cas, et qui venait pourtant d'un département assez rural, qu'en Lozère, les foyers ruraux, ça a une importance clé. C'est une spécificité lozérienne ?
Alors, ce n'est pas une spécificité lozérienne, puisque c'est un mouvement national qui a pris naissance un peu avant-guerre et puis qui s'est fortement développé après-guerre, mais qui s'est donc développé sur le territoire national, qui est particulièrement bien représenté sur la région Occitanie et sur le Grand Est. Et dans la région Occitanie, on peut vous dire aussi que les deux départements où on a le plus de foyers ruraux, c'est la Lozère et c'est la Haute-Garonne, Haute-Pyrénées.
On en a combien d'ailleurs en Lozère ?
Alors en Lozère, aujourd'hui, on a 66 foyers ruraux. Vous voyez, on a 170 communes, 66 foyers ruraux.
Ouais, donc c'est dire quoi ? Dans chaque vallée, il y a un foyer rural, quoi.
Oui, tout à fait.
Et justement, on fait un petit pas de côté toujours par rapport au festival, mais les missions de la fédération, c'est justement de mettre en lien ces 66 foyers ruraux, c'est de parfois amorcer un projet, ou c'est eux qui viennent avec un projet et vous les aidez. Voilà, c'est quoi un peu les temps forts de l'année pour vous et puis vos principales missions ?
Oui, alors c'est vrai que les trois principales missions, je pourrais détailler un peu plus, mais c'est mettre en lien effectivement les foyers entre eux, c'est les soutenir aussi, parce que bon, beaucoup sont juste avec des bénévoles, certains des salariés aussi, et puis c'est aussi coordonner des actions départementales, voire interdépartementales, donc départementales, le festival, on est en plein dedans. Mais voilà, on a des foyers ruraux qui se créent avec un... Ça part souvent d'un besoin. On est dans un village, finalement, on n'a pas grand-chose. Allez, on va faire un foyer, on a quelqu'un qui sait faire quelque chose, qui veut développer la vannerie, qui veut développer le théâtre, la gym, l'aquarelle, etc. Le foyer démarre, et puis après, ben, des fois, il s'étoffe, même souvent, il s'étoffe, il part sur d'autres activités. Et nous, on est là, la fédération, avec nos salariés, pour les aider à travers ce qu'on appelle le centre de ressources, c'est-à-dire que sur tous les aspects techniques, administratifs, montage de dossiers, recherche de financement, etc., la fédération, on est là pour les aider, les épauler, les animer. Aussi, on fait des réunions de secteur chaque année pour leur favoriser l'échange entre eux, de manière à mutualiser aussi les actions et les encourager à se développer.
Oui. Donc vous, Élise, vous êtes, on a parlé un peu de la casquette programmatrice, on en reparlera dans une seconde partie de l'émission, mais vous êtes aussi donc animatrice pour cette fédération. Pareil, ça consiste à quoi ? C'est toutes les missions que viennent de rappeler Jocelyn ?
Oui, tout à fait. On est 4 salariés et c'est vrai qu'on est multicasquettes. Surtout ma collègue Olaya et moi qui sommes toutes les deux coprogrammatrices du festival avec notre commission. Et effectivement, on a un gros rôle de centre de ressources. Donc les foyers nous appellent dès qu'ils ont besoin pour des sujets divers et variés. Et on coordonne les actions départementales. Donc il y a le festival, mais il y a aussi En chemin, j'ai rencontré. Il y a Passe-Pierre qui est une action pour les enfants autour du patrimoine local. Ils écrivent un livre avec des professionnels de la littérature jeunesse. Donc voilà, mais on monte aussi des dossiers de subvention. Voilà, c'est très, très varié.
Et c'est justement, effectivement, un autre gros temps fort, vous venez de le dire, c'est En chemin, j'ai rencontré. Là aussi, il y a le mot rencontre. Tout à l'heure, vous avez aussi tilté sur convivialité. C'est ça aussi, les foyers ruraux, c'est de se dire, parfois dans des villages où... Il n'y a plus de service public, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de mairie où il y a une annexe dans une plus grande commune à des kilomètres. C'est encore le seul lieu justement pour que les gens se rencontrent. C'est avant tout ça un foyer rural ?
Oui, tout à fait. C'est un élément indispensable pour créer du lien social au sein des villages.
Mais justement, on va revenir là maintenant du coup au festival de manière étymologique. Donc dans le foyer rural, ça vient de feu, donc l'endroit où les paysannes et les paysans se retrouvaient autour du feu. Donc on vient de le dire, un espace de socialisation et donc propice aux fameuses veillées du soir qu'a raconté Florent Mercadier et les histoires qui étaient contées. Donc au final, c'est assez logique la connexion entre foyers ruraux et festival de contes.
Oui, absolument. Et c'est effectivement né du terrain, en fait, des gens qui avaient connu ça enfant. Au départ, c'est né de cette tradition orale qui fait partie de notre patrimoine rural et aussi. Et effectivement, c'était d'éveiller au coin du feu, c'était la tradition orale et c'était une façon de réunir toutes les générations autour d'histoires qui parlent à tout le monde.
Et donc, si on continue justement sur ces valeurs du festival, on a compris qu'il y a la valeur de rencontre et de convivialité. C'est pas la seule. Je sais que vous êtes aussi attaché à l'écologie, voilà, et aussi à une programmation paritaire égalité hommes-femmes.
Oui, ça c'est vrai qu'au niveau de la programmation, on est toujours attentive à essayer d'avoir une égalité dans les artistes hommes et femmes. Donc l'année dernière, on n'était pas bien arrivé, cette année aussi. Mais c'est un point d'attention, effectivement. Et puis en termes de tout ce qui est responsabilité écologique, on fait attention à imprimer la brochure sur du papier issu de gestion durable des forêts. On encourage cette année, c'est nouveau, on a mis un petit logo pour encourager les gens à amener leur vaisselle, leur gobelet à l'ouverture et la clôture pour éviter le gaspillage de tout ce qui est contenant jetable. Et oui, c'est quelque chose auquel on tient et on essaye aussi d'encourager le covoiturage. Alors c'est vrai que dans nos territoires hyper ruraux, c'est pas facile et on le comprend, surtout pour un festival itinérant qui n'est pas sur le même lieu, contrairement à beaucoup d'autres. Chaque date est dans un lieu différent, mais voilà, on essaye de mettre en avant des plateformes et je sais qu'au niveau du département, il y a une application qui est en train de se mettre en place, donc on espère que petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs.
Mais justement, ça c'est... Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, non, je voulais dire aussi qu'effectivement, en plus de ce souci au niveau, au niveau des couverts, etc., pour le tri sélectif aussi, on favorise aussi le circuit court local dans l'utilisation des ingrédients qui sont utilisés. Bon, il y a des foyers qui accueillent le public avec des soupes locales. Des fois, on va retrouver la soupe d'orge qui est chère à certains, mais on peut retrouver des soupes tout à fait contemporaines et aussi originales. Et puis, et pas que des soupes. Et puis, pareil, dans le moment de clôture du spectacle, on peut retrouver aussi des recettes fabriquées souvent par les bénévoles qui mettent leur cœur et qui veulent montrer qu'il y a des choses à partager à travers ce qu'ils ont fait.
Justement, oui. les bénévoles, combien de bénévoles en tout pour ce festival?
En tout, il y a à peu près... Une dizaine de bénévoles par foyer.
Oui, c'est ça. On a 34 foyers, enfin 45 foyers qui organisent, puisqu'en fait, il y a 34 lieux de représentation, mais il y a plusieurs foyers qui se réunissent à deux ou trois pour co-organiser donc, la soirée.
Et donc, voilà, ça fait 400
bénévoles. Hein.
Ouais, donc c'est une grande machine, un gros orchestre à diriger. La préparation, on l'a dit au tout début sur le côté programmation, où voilà, ça se programme forcément à l'avance. Mais là, je ne sais pas si donc là, l'édition 2025 commence dans une semaine. Vous êtes déjà sur l'édition 2026 aussi dans l'idée de programmation et d'organisation ?
Oui, alors on n'est pas toujours autant en avance, mais pour le coup, pour 2026, on a déjà prévu notre clôture en partenariat avec le Ciné-Théâtre de Saint-Chély, avec un spectacle de Rachid Bouali. Et en ouverture, on sera sûrement en partenariat avec la Jeunette Verte, qui est aussi partenaire cette année, sur un spectacle de Marien Tillet. Et oui, j'allais rajouter tout à l'heure aussi, c'est vrai qu'on essaye toujours de faire travailler aussi des artisans locaux ou des traiteurs locaux, etc. Et là, pour la clôture, on fait appel à la boulangerie d'Aumont-Solignac, on fait appel à la fromagerie d'Aumont-Benoît-Chapert aussi. Et c'est quelque chose auquel on tient effectivement à faire travailler les personnes locales.
Et donc, toutes ces raisons font que ce festival est apprécié par les conteurs et conteuses. On réécoute justement Florent Mercadier, qui est même plus qu'élogieux sur le festival Contes et Rencontres.
C'est clairement de mes festivals préférés parce que y a, vous parlez d'énergie, il y a un dynamisme, et puis y a un plaisir d'aller sur les territoires en général. Et selon que vous jouez en ville ou dans un petit village sous la neige, l'ambiance change complètement. Et là où c'est impressionnant, c'est que les équipes de bénévoles et de localement et des gens qui s'occupent du festival, des bibliothèques, etc., des médiathèques, font un travail au long cours depuis des années. Le festival existe depuis très longtemps maintenant. Et donc ils ont gagné auprès du public une crédibilité, une confiance aussi, ce qui fait que Il n'y a pas tant d'endroits que ça où vous pouvez programmer à peu près qui vous voulez comme compteur, parce que les gens disent « Ah, si c'est compte des rencontres, on sait que ça va être bien, donc on y va. » Ils ont acquis ça. Et ça, pour nous, les compteurs, c'est super agréable, parce que vous savez que vous arrivez à un endroit où c'est préparé, où les gens ont pensé votre venue, et il y a un public qui est curieux et qui a envie, quoi.
Bon, alors c'est toujours compliqué de réagir à un compliment, j'imagine, mais quand même, le fait que le public soit curieux et en vie, c'est une volonté de votre part, ça montre aussi que le travail porte ses fruits.
Oui, en fait, c'est un compliment qui nous honore, qui honore aussi tous ceux qui œuvrent à la réalisation de ce festival. Donc, on a bien sûr les salariés, puis on a aussi une commission, donc compte avec des bénévoles qui donc travaillent à réfléchir au choix des différents artistes. Donc, c'est effectivement, ça fait plaisir à entendre, mais à travers ça, je crois que c'est aussi une reconnaissance du public hein, qu'il faut voir à travers ce message.
Oui, je crois que les compteurs, vraiment, on les traite en amis, on les accueille, on les accompagne. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis les débuts du festival. Ce festival a été mis en place par Marie Huguet et Sylvie Chabrol. Et je pense qu'il faut les citer parce que c'était deux salariés qui... C'est elles qui ont fait les foyers ruraux en Lozère. Elles sont vraiment allées à la rencontre des gens sur le territoire. Et elles avaient ce côté très humain, très chaleureux qu'on essaye de continuer à faire vivre. Et Marie Huguet fait toujours partie de la commission compte. Et souvent, les compteurs nous en parlent. Ils reviennent, ils disent « Ah oui, je me souviens, Marie Huguet, etc. » Donc, des fois, il suffit de certaines personnes qui sont vraiment fédératrices pour créer des belles choses et que ça perdure dans le temps.
On a fini sur cette première partie donc, qui permettait un peu de mettre en contexte qu'est-ce que le festival. On va prendre une pause musicale et après ça sera donc la programmation avec donc un artiste lui aussi expert dans l'art du récit en tant que rappeur et dont son dernier album se nomme Rencontre. Donc on écoute tout de suite This Is et le morceau intitulé Casino.
Rapproche-toi, repose-toi sur moi.
Toujours en débat, plusieurs raisons qui se cachent dans les silences de la maison. Comment je vais faire pour quitter la terre, pour changer l'enfer? Comment je vais faire?
Dans la vie, c'est chelou, ouais. Dans la vie c'est chelou, ouais. Le trajet est chelou, ouais. Toujours dans la passe, toujours dans la passe. Comme Pacino, comme à Vegas. À Deauville, je sors du casino. Est-ce que je rêve? Est-ce que je perds? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je lève? Qu'est-ce que je perds si je la quitte?
Toujours en débat, plusieurs raisons qui se cachent dans les silences de la maison. Comment je vais faire pour quitter la terre, pour changer l'enfer? Comment je vais faire?
Dans la vie c'est chelou, ouais. Dans la vie c'est chelou, ouais. C'est comme en dehors, parce que moi dedans c'est pas joli du tout. C'est comme en dehors, je sais pas quand je vais sortir, mais ça va pas du tout. Hier j'étais bien, la mer sur son sein, plein de bouche à bouche. Ouh,
silhouette.
C'était Casino de DC's, un morceau issu de l'album Rencontre, paru en 2022. La rencontre, c'est justement l'un des deux termes qui compose le titre du festival Contes et Rencontres en Lozère. Cette émission leur est consacrée. Je suis toujours en compagnie donc d'Élise Boudry et Jocelyn Boulot, tous deux membres de la Fédération départementale des foyers ruraux qui organise l'événement. Et pour cette deuxième partie, on va s'intéresser au programme de cette 34e édition. Avec une question pour vous, Élise. Tous les ans, il y a un fil rouge. Quel est le fil rouge, justement, cette année?
Alors, cette année, c'est Trouver sa voix, V-O-I-E-V-O-I-X. C'est vrai que chaque année, on dégage un fil rouge qui fait le lien entre les spectacles. Et cette année, il s'illustre de façon différente. Donc, on a, par exemple, le spectacle de Joël Foulé, où c'est quelqu'un issu de la banlieue parisienne qui va à Marseille et qui rencontre, du coup, un Marseillais bien ancré dans son territoire et qui, voilà, se demande comment trouver son identité quand on n'a pas cette espèce de goût du terroir, qu'on est né dans un territoire qui n'a pas une identité culturelle forte. On a aussi Florent Mercadier qui parle de quelqu'un qui part de la campagne et qui arrive à la grande ville. Donc comment trouver sa voie quand on change d'environnement. On a aussi Des chèvres en Corrèze, où là c'est l'histoire de quelqu'un qui se retire de la société pour devenir ermite. Et donc comment trouver sa voie dans cette société aujourd'hui, ça questionne plein de choses d'actualité. Donc voilà, c'est un thème qui se retrouve dans divers spectacles du festival.
Et des spectacles, justement, comment on monte une programmation d'un festival comme Contes et Rencontres? On trouve le spectacle sur Internet, c'est du bouche à oreille, ou justement, on va les voir sur place?
Ben oui, bien sûr. C'est aussi quelque chose auquel on accorde beaucoup d'importance. C'est-à-dire que, Élise l'a dit tout à l'heure, on va sur différents lieux où sont organisés aussi des festivals de contes, ou un petit peu à la marche, comme Avignon, mais c'est là où aussi on peut trouver des spectacles de contes un peu plus contemporains ou plus dans l'art du récit. Et donc le principe est qu'on a vu le spectacle avant de décider de le programmer. On ne s'aventure pas à choisir un spectacle comme ça sur Internet ou juste en écoutant un teaser de quelques minutes. Non, non, c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas. Il faut qu'on ait vu le spectacle, qu'on l'ait ressenti. Il est important de ressentir ce spectacle. Est-ce qu'il va plaire à tout le monde? Est-ce qu'on va toucher le plus large public possible? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas trop haut, trop bas par rapport aux attentes du public? On est très attentif à ça, de manière à satisfaire notre public au maximum.
Oui, sachant qu'on prend toujours soin de respecter les formes traditionnelles du conte, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous et pour notre public aussi. Donc il y a toujours des spectacles de contes traditionnels et d'autres un peu art du récit, seul en scène, qui sortent un petit peu du conte, mais qui sont toujours liés.
Il y a quand même une place pour l'éclectisme, quand même, hein. Faut pas l'oublier.
Il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Et avec, du coup, cette année, des nouveautés aussi.
Oui, donc ça, c'est effectivement... on s'est inspiré d'autres festivals qu'on a pu observer. Et on fait cette année un apéro-conte avec Amel Guénoun, qui a l'habitude d'en animer. Donc c'est effectivement une première. On va voir si ça prend, si ça plaît au public. C'est ouvert aux conteurs qui souhaitent raconter autour d'un verre. Donc c'est encore une fois la convivialité au centre de l'événement. Ce sera à L'Encrier à Florac le 14 février. On a également cette année une librairie et une bibliothèque. Donc ça devait être deux librairies, mais finalement c'est une librairie à la clôture et une bibliothèque à l'ouverture. Donc sur le thème du conte, mais aussi pour l'ouverture sur le thème de la place de la femme dans l'agriculture, puisque c'est le thème du spectacle d'ouverture.
Et donc ça c'est de nouveautés. Il y a aussi, alors c'est pas une nouveauté à prendre parler, mais moi je voulais aussi parler de l'événement qui se passe à Fontany, le quartier prioritaire, nouvellement prioritaire de Mende. voilà, la philosophie du festival, on l'a dit en première partie, c'est d'aller voir des publics qui sont pas forcément l'occasion d'aller voir des spectacles en réalité, mais au final, en fait, aller à Fontani, ça a du sens aussi à ce niveau-là de se dire, c'est peut-être des fois des populations, des publics qui ont du mal à sortir, et on va sur place et on fait un spectacle. On peut parler un peu de cette soirée-là, justement, à Fontani. Je dis soirée, mais je crois que ça commence justement vers 18h pour le jeune public.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, là, on est vraiment dans une démarche du « aller vers ». Hein, c'est quelque chose aussi qui est important. C'est vrai qu'on a peut-être des jeunes qui ne seraient pas forcément venus au festival, parce que c'est vrai qu'à Mende, on a souvent on a eu des ouvertures ou des clôtures, mais pas forcément un spectacle vraiment au plus proche de la population et qui vient vers les gens pour leur dire « Venez découvrir ce spectacle ». On va être en plus avec une petite jauge, hein, parce que la salle de Fontani n'est pas très grande, mais on veut que ce soit la population locale du quartier de Fontani qui découvre aussi ce monde magique du conte.
Et on sera en partenariat avec le Théâtre de Mende et l'Espace Jeunesse de la ville. Et il y aura 20 places gratuites pour les jeunes de l'Espace Jeunesse, justement, pour leur permettre de pouvoir aller au spectacle. Ce sera Requin Chagrin de Clara Guénoun, qui est un spectacle qui parle, entre autres, qui est pour tout le monde, mais qui parle de jeunes notamment, puisqu'elle a été enseignante dans des quartiers difficiles. Et elle a réussi à intéresser ses élèves aux Français grâce au conte.
Mmh. Donc ça, voilà, c'est parti un peu des nouveautés. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément de la nouveauté, mais en tout cas, si, ça fait quand même un ou deux ans que ça existe, c'est le Labo des Conteurs. On va écouter, justement, Kamel Guénoun, qui gère cet atelier, en parler, puis après, je vous demanderai votre réaction.
Ah ben c'est complètement, si je peux me permettre, enfin en vous temps, mais c'est d'autant plus que ces personnes font déjà un parcours, quel que soit, bon, c'est souvent donc des adultes, et ils ont envie de se lancer, les aider à se retrouver. Oui, c'est une très belle expérience humaine. On devient un peu amis, on se sent complice. Oui, je crois qu'on devient amis, oui. Oui, oui. Oui, oui. Moi, je les accompagne dans leur démarche artistique. Pour certaines, vont se mettre à compter, d'ailleurs, après, ici, là, enfin, dans le département de la Lozère, il y a plein de lieux qui peuvent les accueillir. Et c'est le lien que je fais, moi, avec la personne, ce qu'elle est. Donc, mon laboratoire s'appelle « Ne t'inquiète pas, tout a déjà été raconté, sauf par toi ».
Alors, j'aurais peut-être dû commencer en écoutant cet extrait par expliquer un peu ce que c'est ce Labo des Conteurs, qui commence directement en disant « ces personnes-ci, ces personnes-là font comme si ». Qui veut un peu expliquer le concept du Labo des Conteurs ?
Alors, le Labo des Conteurs, c'est une initiative de Evelyne Perrichon, notre coprésidente, mais qui est également conteuse. Et l'idée, c'était de réunir des amateurs du conte, mais on dit amateurs, certains qui sont déjà quand même bien avancés dans leur expérience, et notamment d'anciens stagiaires de notre festival qui avaient commencé à se former, puisque chaque année, on propose également des stages pour amateurs ou confirmés. Et ils sont un peu moins d'une dizaine à se retrouver une fois par mois, guidés par Kamel Guénoun, pour progresser dans leur pratique.
Et ce qui se passe, c'est que avec ces stages qui durent le week-end, hein, cette année, on a deux stages qui sont programmés. On a un stage pour conteurs débutants et un stage pour conteurs qui cherchent à se perfectionner. Eh bien, en fait, il y a des belles amitiés qui se lient, hein, pendant ces stages. Et puis, c'est arrivé qu'à la fin d'un stage, ils se disent... C'est dommage, on s'arrête là, puis on va attendre un an pour reprendre quelque chose. Ben non, continuons à faire des choses ensemble localement et à promouvoir le conte et en intéressant tout le monde à cette art initiatique de l'art de la parole qui est à la portée de tout le monde finalement.
Et c'est quelque chose qu'on veut encourager, donc c'est pour ça que cette année, on les programme dans le festival, et ils vont donc monter un spectacle exprès pour le festival à l'aide de Kamel Guénoun.
Et donc ce spectacle, il se déroule où et quand ?
Alors, ceux du Labo des Conteurs, ils seront à Servières en tout premier, donc le dimanche 9 février. Après, je sais qu'ils vont à Nasbinal, d'abord Sainte-Croix-Vallée-Française le mardi 18, et puis Nasbinal le jeudi 20.
Ben là, d'ailleurs, même, on parlait aussi de où rayonne le festival. On voit bien qu'entre Nasbinal et la Vallée française, vous êtes déployés partout et ils se déplaceront partout en Lozère. Et donc voilà, on parlait d'un pré-parti de le conte. C'est certes le conte traditionnel que tout le monde connaît, mais c'est également des contes dits modernes. J'ai interrogé justement Daniel Laumont sur ce sujet. Il présentera, lui, l'accent fantôme pour trois représentations du 18 au 21 février. Voilà ce qu'il a répondu à la question.
Il y a d'autres façons de conter aussi, c'est-à-dire chaque conteur a sa propre façon. Il y a d'autres conteurs qui resteront et conteuses, qui resteront par exemple derrière le récit et qui raconteront de façon neutre hein, pour laisser le récit prendre sa propre saveur. Moi, j'essaye de servir le récit, mais je garde quand même ma façon d'être, quoi. Ce n'est pas une grande priorité. Et puis en plus, je raconte mes propres contes, donc je suis très investi dedans. J'ai pas à raconter la mythologie égyptienne, et là, j'ai pas à rajouter mon grain de sel sur Isis ou sur peu importe, ou sur Ra. Voilà. Donc c'est encore une autre façon.
Voilà, donc Daniel Laumont ne se voit pas conter des histoires dont il n'en est pas l'auteur, entre guillemets. C'est ça un peu justement la grosse différence entre contes modernes, contes traditionnels. Les contes modernes, c'est les contes dont les personnes qui les racontent sont les auteurs ou autrices.
La plupart du temps, oui. Après, c'est vrai que Daniel Laumont, c'est toujours intéressant de voir son point de vue, puisque lui, il est conteur depuis plus de 30 ans et c'est quand même une pointure du conte. Mais effectivement, la plupart du temps, c'est des contes qu'ils ont, alors qui n'est pas toujours autobiographique, hein, mais effectivement, ils montent leur propre spectacle, en fait.
Et puis, il peut y avoir aussi dans leur spectacle une part de vécu qu'on accroche aussi à du conte venant d'autres auteurs. Et finalement, on retrouve des parallélismes d'époque, de lieu et d'histoire.
Justement, dans la part de vécu, on l'a un peu dit sur le fil rouge de trouver sa voix. Pour dépoussiérer l'univers du conte, dans votre programmation, on trouve aussi plusieurs traits communs à différents conteurs. Bah justement, on vient d'écouter alors tout à l'heure Florent Mercadier, là Daniel Laumont. Je pense notamment à l'humour. Donc pour vous autour de la table, le conte et l'humour, c'est pas opposé, c'est aussi une manière de désacraliser le conte. Peut-être vous, Élise, vous êtes programmatrice.
Alors, disons que des fois, ça permet d'aborder des sujets de société qui pourraient être un peu graves et d'alléger. C'est vrai que les gens vont au spectacle pas pour sortir déprimés. Donc, on essaye de programmer des spectacles qui soient pas toujours humoristiques, mais au moins touchants, qui fassent réfléchir. On a envie que les gens sortent du spectacle en ayant... avec quelque chose de plus, que ce soit une réflexion ou quelque chose qu'ils ont découvert. Mais on ne veut pas tomber dans le festival de l'humour. C'est vrai que c'est une demande très forte, souvent des foyers, que ce soit de l'humour. Et en fait, on ne veut pas qu'il y ait que ça. Sinon, on tombe dans un festival qui n'est plus juste un festival de contes, mais seulement un festival de l'humour. Et je trouve qu'il y a des spectacles très, très beaux qui ne passent pas toujours par l'humour.
Ouais. Et puis c'est vrai que quand on rentre dans le conte, quand on commence bien à l'écouter, l'humour, on va le trouver dans le sel de l'histoire.
Ah bah là, vous me faites une super transition, vous venez de parler de sel, comme si voilà, l'humour était un condiment. Bah, écoutez Daniel Laumont sur cette question.
L'humour, ça s'adresse de toute façon à des gens qui ont la même culture. L'humour, c'est quand même quelque chose de très privé, même si on a une salle entière, quoi. L'humour français, pour faire une comparaison, ne ressemble pas à l'humour anglais, ni à l'humour indien, etc. Mais l'humour dans le conte, moi je l'utilise comme un condiment, comme le thym et le laurier pour un civet de lièvre, vous voyez. Et puis l'humour a le don de faire montrer parfois l'absurde d'une situation, l'absurde de la vie aussi, de faire décoller un peu. Et ça c'est bien, ça fait du bien, ça relativise les choses graves et les choses légères aussi, voilà. Enfin, je le conçois comme ça l'humour. En tout cas, je le conçois comme pour résumer, comme un aide de camp du conte, mais pas comme une finalité, quoi.
Donc on a l'impression que vous êtes téléphoné avant pour avoir exactement les mêmes réponses. Donc ça montre qu'il y a une cohérence entre ce que dit le compteur et vous deux. Sur le côté, ça peut dédramatiser, mais ça reste aussi seulement le sel. J'ai posé aussi la question à Monsieur Mercadier, à Florent Mercadier, où lui justement, il peut aussi se permettre. Il m'a dit un humour parfois de geste, comme une sorte de mise en scène parfois, qui lui peut utiliser sur ses comptes.
Pour distinguer par exemple le théâtre et le conte, nous en conte, on n'a pas ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire qu'on parle directement au public. Ça permet de faire des allers-retours entre le réel du public et l'histoire qu'on raconte avec, je sais pas moi, un dragon, des fées, ce qu'on veut, et on peut jouer de cette espèce de second degré entre l'humour du conte et l'incongruité. La limite, elle est celle que vous allez mettre entre votre imaginaire et le réel des gens. Si j'ai un conte où j'ai une panthère, et la panthère, pendant qu'elle parle, se libe les ongles. Voilà, ça fait rigoler, parce que tout le monde imagine les griffes de la panthère, donc moi je le retranscris dans un monde où elle se... C'est comme une femme qui, tout en discutant avec vous, se limerait les ongles. On peut jouer avec ça, avec cette frontière entre l'imaginaire et le fait que le spectateur qui est avec vous, lui, est bien conscient que tout ça est une histoire. Mais moi, le conteur, je dois faire comme si je ne savais pas que c'est une histoire. Moi, je dois y croire à l'histoire.
Donc voilà, on voit que lui, tout à l'heure, on disait que pour certains conteurs peut-être plus rigoristes, le conte se suffit à lui-même. Lui, il va parfois un peu, effectivement, mimer, se limer les ongles pour continuer à raconter cette histoire et que, comme il vient de le dire, que les gens y croient, mais aussi on l'a rappelé, donc c'est de l'humour, mais pas un one-man show. Parfois, il y a aussi de la chanson, mais c'est pas du slam, c'est pas chanson. Donc, faut trouver ce juste milieu. Ça, c'est assez compliqué de trouver justement la bonne frontière pour que ça reste du conte, sans que ça parte dans justement ce que vous souhaitez pas.
Effectivement, c'est des fois la frontière est fine. Mais ça tient aussi au conteur. Effectivement, il y en a qui aiment inclure de la musique. Après, la gestuelle, je pense qu'ils l'ont tous. Hein. Ça fait vraiment partie de l'art de raconter pour entraîner les gens. Il y a de la gestuelle, il y a du mouvement, il y a des intonations. Ils jouent souvent plusieurs personnages. Donc ça se retrouve chez tous.
Oui. Et bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'humour, comme la gestuelle aussi, c'est aussi le moment qui permet l'interactivité entre l'artiste et son public. Parce que c'est ça aussi qui est important, hein, c'est qu'il y ait une interactivité et qui peut être simple, hein, par des sourires, par des réactions, mais qui peut aller après par une prise de parole aussi du public qui rentre dans le jeu de l'artiste. Et finalement, il y a un échange qui se crée parce que le public se retrouve aussi dans le spectacle.
Et donc là, j'ai évoqué un peu l'humour qui peut servir. Il y a la chanson aussi, parfois, qui peut... pareil, je n'ai pas gardé les extraits, mais on me disait qu'il peut parfois redynamiser ou mettre un peu une pause, un peu plus pour respirer dans un spectacle qui peut être aussi parfois prenant. Une autre manière aussi de créer du lien avec ce public, encore plus ici en Occitanie, en Lozère, c'est l'occitan, la culture occitane. Justement, encore une fois, toujours sur ces deux conteurs, que ce soit Florent Mercadier avec De chez moi à chez moi, ou alors Daniel Laumont avec L'accent fantôme, c'est ça. Ils évoquent leur part personnelle, voilà, on parle aussi d'un aspect biographique de l'occitan. C'était aussi important pour vous de se dire peut-être que les gens dans le public se reconnaîtront quand ils parleront de la culture occitane.
Oui, bah, c'est très bien. Hein. On attache aussi beaucoup d'importance à avoir de l'occitan dans nos spectacles, parce que l'occitan, bah, d'abord, c'est une langue vivante. Hein. C'est une langue vivante et qui a beaucoup de variantes, comme le français en a aussi entre le nord et le sud, entre l'occitan des Pyrénées Atlantiques ou l'occitan lozérien, il y a des variantes, mais tout le monde s'y retrouve. Et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est là où vraiment le public réagit, hein, quand il y a de l'occitan, il y a beaucoup de gens qui interagissent aussi avec les artistes. Donc c'est bien, et ça permet aussi de faire connaître cette langue à travers les parallèles qu'il y a souvent entre des traductions ou des phrases mi-français, mi-occitan. Les gens qui ne sont pas de la région Occitanie arrivent à comprendre l'occitan. Et même les jeunes aussi arrivent à le comprendre et à saisir et à agir dessus.
Et donc, on l'a peut-être rappelé aussi au tout début quand on parlait de convivialité, mais ce qu'il faut rappeler pour les gens là qui voudraient prendre des tickets ou des billets, c'est qu'à chaque fin de spectacle, il y a vraiment l'occasion d'avoir cette rencontre justement avec le conteur ou la conteuse, justement là pour parler peut-être occitan, parler ce qui nous a touchés dans le spectacle, ça c'est important. Voilà, je voulais le rappeler aussi que, je crois qu'on l'avait dit en première partie d'émission, mais c'est toujours important de le rappeler. Et une petite question piège, parce qu'elle n'était pas préparée pour vous, mais je vais quand même vous demander un peu un coup de cœur de la programmation, même si je sais que vous avez tout validé, donc vous aimez tout, votre coup de cœur à tous les deux.
Allez, j'y vais. Moi, c'est Lucie Callas. Lucie Callas, je crois que c'est notre plus jeune conteuse, me semble. Hein. Mmh. Bah, Lucie, en fait, moi, j'apprécie Lucie parce que c'est une conteuse vraiment qui est l'exemple de la jeunesse du conte. Lucie, elle a commencé à conter à l'école. Hein, à l'école primaire, elle a commencé à conter. Et puis, après, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'elle elle dira, mais en fait, c'est par des stages contes qu'elle a connu très très jeune, qu'elle est rentrée dans le conte. C'est pour ça qu'il y a la place pour les jeunes dans le conte. Vraiment, c'est un très bel exemple de la jeunesse du conte et des talents qui sont encore à naître.
Et là, on voit aussi qu'il y a le fil rouge, trouver sa voix, j'imagine, est très cohérent avec le fait qu'elle ait trouvé sa voix aussi assez jeune avec ses stages contes. Et vous, Élise ?
Moi, j'ai vraiment... On a eu toutes les deux avec Olaya, ma collègue, un coup de cœur sur l'ouverture. Du coup, on a mis en ouverture La Trouée, Road Trip Rural de Cécile Morel, qui parle d'une jeune femme qui revient dans sa Picardie natale, comment trouver sa voie quand on revient sur la terre de ses origines. Et elle parle effectivement de l'agriculture, du monde agricole. Elle a fait des collectes de témoignages, notamment d'une laitière, qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans l'agriculture, etc. Et c'est un spectacle vraiment incroyable. Et j'aimerais aussi rajouter Requin Chagrin de Clara Guénoun, qui m'avait énormément émue à Bordeaux.
Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir les spectacles, mais en prospectant la programmation et aussi en ayant au téléphone, alors je n'ai pas pu la rajouter pour l'émission, malheureusement, problème d'emploi du temps, mais moi, c'est le spectacle de Marie Thomas, que j'ai hâte de voir, justement aussi dans cette, on se disait, l'aspect maintenant moderne et biographique du conte. Si quelqu'un peut un peu expliquer en deux, trois mots le spectacle de Marie Thomas.
Oui, alors pour le coup, c'est effectivement un spectacle autobiographique. C'est l'histoire de quand elle était enfant, ses parents étaient pieds noirs. Ils vivaient en Algérie et à 8 ans, ils ont dû fuir à cause du conflit en Algérie. Et ils se sont retrouvés en France. Donc voilà, elle raconte ça avec ses yeux d'enfant et qu'est-ce qu'elle a vécu. C'est vraiment émouvant, mais en même temps pas dramatique. C'est très beau. Et c'est la clôture. Oui. La clôture du festival.
Et en parlant de clôture de festival, c'est nous bientôt la clôture de l'émission. Quand même refaire un petit... on va quand même reparler un peu. On n'aura pas le temps d'évoquer tous les 34 représentations. Mais parler un peu info pratique. Là, si une auditrice ou un auditeur nous a écoutés, comment il peut retrouver toutes les informations? On parlait aussi de pourquoi pas plutôt réserver à l'avance des spectacles. Déjà, peut-être l'ouverture ce samedi, c'est déjà complet. Non, il reste encore des places?
Non, ce n'est pas encore complet. Ah. Ce sera à la Genette Verte, donc directement sur leur site. Ils ont une billetterie, donc le site de la Genette Verte à Florac. Pour la clôture, c'est la fédération qu'il faut appeler. C'est nous qui gérons la clôture. Donc pour réserver, n'hésitez pas à nous appeler. Et pour tout le reste des représentations, elles ont lieu dans les foyers ruraux, donc il y a dans les brochures les numéros de chaque foyer pour réserver. Les brochures se trouvent dans tous les offices de tourisme, également dans certains commerces, à la fédération. Voilà, les foyers se chargent dans leur secteur de les distribuer un peu partout.
Et sur internet également, sur votre site, la brochure est à retrouver, et c'est dans toute dernière page qu'on a effectivement le tableau avec les numéros à appeler si on veut s'inscrire, ou en tout cas voilà, réserver ses places.
Tout à fait. Et puis vous avez aussi sur Facebook, on tient à jour les différents spectacles qui se déroulent. Donc on les retrouve sur Comptes et Rencontres Lozère.
Très bien. Donc c'est déjà la fin de Théma, une émission qui était consacrée aujourd'hui au festival Contes et Rencontres qui se tiendra donc du 8 au 22 février prochain. Je le rappelle, avec moi en studio, Élise Boudry et Jocelyn Boulot, respectivement programmatrice et coprésident de la Fédération départementale des foyers ruraux qui organise ce festival. Merci à vous d'être venus. Ah, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais quand même, avant de clôturer, remercier tous les partenaires qui nous ont permis de faire ces festivals, hein, parce qu'il y a les bénévoles. bénévoles, il y a des salariés, mais il y a aussi nos partenaires qui, pour certains, sont avec nous de longue date. Hein. Donc je voulais quand même remercier le conseil départemental de la Lozère, la région Occitanie, le parc national des Cévennes qui, historiquement, était à l'origine du festival avec nous, la direction des affaires culturelles, la direction de services départementaux de l'éducation nationale, la Caisse commune de sécurité sociale, et puis des partenaires plus institutionnels, Enedis, le Crédit Agricole du Languedoc-Roussillon, Hyper-U et Giro Automobile. Et puis, voilà. Merci à eux aussi pour ce bel appui qu'ils nous apportent.
Bah, pas de jaloux, tout le monde a été cité. Donc voilà, je voulais remercier vous. Également encore un grand merci aux compteurs avec qui j'ai pu m'entretenir avant cette émission en direct et dont les réponses ont agrémenté cette émission. Un dernier remerciement à Olaya, l'autre programmatrice de ce festival qui m'a aidé à préparer l'édition de Théma d'aujourd'hui. Et je finirai cette émission par un proverbe d'un poète turc que m'a soufflé Kamel Genoun. Les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais éveiller les adultes. Allez, au revoir et à la prochaine sur 48 FM.